VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Bras de fer entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le président américain Donald Trump a de nouveau menacé ce vendredi d'employer la force contre le régime nord-coréen. Les solutions militaires sont maintenant complètement en place et prêtes à l'emploi. Si la Corée du Nord se comporte imprudemment, a déclaré le président américain sur son compte Twitter. J'espère que Kim Jong-un trouvera une autre voie, a ajouté Donald Trump. Le chef de l'exécutif américain avait déjà défendu avec énergie hier sa précédente mise en garde à la Corée du Nord, à qui il a promis le feu et la colère. Donald Trump avait même estimé que cette mise en garde n'était peut-être pas assez dure. Morgan Guiriec.
Depuis son golf de Bedminster, dans le New Jersey, où il passe des vacances, le président Trump a déclaré qu'il est grand temps que quelqu'un parle haut et fort pour les habitants de ce pays et les habitants d'autres pays. Il a refusé de commenter sur d'éventuelles frappes préventives visant la Corée du Nord pour contrer le développement de ses programmes nucléaires et balistiques. Après un tweet menaçant du chef de la Maison-Blanche, affirmant que l'arsenal nucléaire américain était plus fort et plus puissant que jamais, Pyongyang a présenté hier un projet détaillé pour tirer une salve de 4 missiles au-dessus du Japon vers le territoire américain de Guam dans le Pacifique. Donald Trump a réagi hier, affirmant que si la Corée du Nord fait quoi que ce soit, ne serait-ce qu'en songeant à attaquer des gens que nous aimons ou nos alliés, il devrait être très très inquiet, car des choses qu'il n'avait jamais cru possibles vont leur arriver.
Présidentielle au Kenya maintenant, la Commission électorale nationale kenyane pourrait annoncer dans l'après-midi le nom du vainqueur du scrutin de Bandi. Le président sortant Uhuru Kenyatta, 55 ans, disposerait 2,5 millions de voix d'avance sur son principal rival Raila Odinga, selon des résultats partiels portant sur la quasi-totalité des bulletins. Et le chef de l'État semble en passe de remporter un second et dernier mandat de 5 ans. Mais Raila Odinga, 71 ans, conteste ses résultats et son parti l'a déclaré vainqueur du scrutin jeudi, en disant se baser sur des résultats transmis par une source secrète au sein de la commission électorale. Ce vendredi, l'ambassadeur des États-Unis au Kenya, Bob Godek, a exhorté les Kenyans à la patience et leurs leaders à recourir aux voies légales prescrites en cas de désaccord sur les résultats du scrutin. Un message déjà martelé hier par le département d'État américain à Washington, John Lindon.
Nous exhortons les partis à attendre pacifiquement et patiemment l'annonce officielle des résultats par la commission électorale, a déclaré le département d'État américain. Washington demande à cet organe de garantir l'équité du scrutin. Si des candidats contestent, qu'ils le fassent selon la voie constitutionnelle et non pas par des menaces ou des actes de violence, a estimé la diplomatie américaine. Les chiffres provisoires de la commission électorale donnent une très large avance au président sortant Uhuru Kenyatta. L'opposition a exigé hier que son candidat Raila Odinga soit déclaré vainqueur au lendemain de violences sporadiques qui ont fait 4 morts.
En RDC, un rapport d'une coalition de la société civile regroupant notamment la Ligue des électeurs et l'Association congolaise de défense des droits de l'homme, ACIDH, estime ce vendredi que le président Joseph Kabila cherche non pas à préparer son départ, mais plutôt à renforcer son pouvoir. Les auteurs du document déplorent ce qu'ils appellent l'application calamiteuse de l'accord pouvoir-opposition de la Saint-Sylvestre, censé conduire le pays vers des élections. 7 mois après, Joseph Kabila est toujours au pouvoir et l'opposition exige les élections avant la fin de l'année. Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, appelle à la poursuite des concertations.
Nous pensons que ces acteurs pourraient faire preuve de bonne foi pour faciliter l'organisation des élections dans le respect du délai convenu dans l'accord politique. Et nous pensons également que ces parties prenantes pourraient arriver à dégager un consensus pour la redéfinition de la séquence électorale en privilégiant l'élection présidentielle. C'est facile à organiser en tenant compte du temps. Mais au-delà des parties prenantes de manière globale, nous avons également pensé aux institutions de la République, Assemblée nationale, au Sénat, à l'INSEE, au gouvernement et également au CNSA qui est chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord.
Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice en RDC.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, l'ONU dénonce la présence d'enfants soldats dans les rangs de groupes armés s'affrontant dans le Nord. Et aussi le fait que des prisonniers mineurs sont actuellement détenus par l'ex-rébellion à dominante Touareg CMA dans son fief de Kidal. Malgré un accord de paix signé en mai et juin 2015, les combats ont repris ces dernières semaines entre les groupes armés pro-gouvernementaux réunis au sein de la plateforme et les groupes de la coordination des mouvements de l'Azawad, de la CMA. Sahel, Johan Gustafsson, un ex-otage suédois détenu par Al-Qaïda au Mali pendant plus de 5 ans avant d'être libéré en juin, a dénoncé jeudi le versement de rançon de les affaires d'enlèvement. La réaction d'Amédou Ould Abdallah, ancien fonctionnaire de l'ONU, actuellement directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara à Bruxelles.
Je pense que beaucoup de personnes d'institutions dans le Sahel, donc au Mali, au Niger, en Mauritanie, au Burkina Faso, en particulier, sans mentionner le Tchad, se posent des questions. Ces libérations successives, donc les 2 otages ont été libérés rapidement. Il y a quelque chose de nouveau, c'est que la libération s'est faite loin des palais présidentiels, s'est faite loin de la présence de la presse et des caméras de télévision, et s'est faite loin des déclarations convenues de remerciement, et elle s'est faite aussi sans compensation de couverture, parce qu'on n'a jamais parlé d'argent payé, même si tout le monde sait qu'il a été payé. On a surtout vu des prisonniers proches des ravisseurs être libérés. Or, cette fois-ci, donc, ni caméra, ni discours de remerciement, ni libération des prisonniers. Et c'est une nouvelle, donc, donne qui se développe au Sahel et qui mérite d'être mieux examinée et mieux discutée.
Amédou Ould Abdallah, joint à Bruxelles en Belgique. Relations États-Unis-Afrique adoptée en l'an 2000, l'African Growth and Opportunity Act, la législation américaine pour la promotion du commerce entre les États-Unis et l'Afrique, soutient l'économie des 38 pays africains éligibles à ce jour. À Lomé au Togo, où la toute dernière édition du forum AGOA entre dirigeants américains et africains en présence d'hommes d'affaires s'est terminée jeudi, l'heure était au bilan et à la définition des moyens de tirer un meilleur profit de cet accord de libre-échange. Reportage Ideal Concept Production, récit Gabi Dorsil.
Le 16e forum de l'AGOA a servi de cadre au ministre du Commerce des pays éligibles afin de tirer meilleur profit de cette loi. C'est une loi qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. Bernadette Legezim Balouki, ministre du Commerce du Togo.
Aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelles sont les contraintes. Qu'est-ce qui fait que ceux qui ont été éligibles à l'AGOA n'ont pas encore profité de cette loi.
Le forum de Lomé intervient à un moment où on note que la nouvelle administration américaine porte moins son attention sur le continent africain. À raison, beaucoup d'observateurs s'interrogent sur l'avenir de la loi. Mais les responsables américains rassurent.
The United States is committed to Africa.
L'engagement des États-Unis envers l'Afrique continue. Nous voyons de grandes possibilités d'approfondir nos rapports commerciaux avec, comme objectif, la création d'un partenariat véritable pour l'avenir. La baisse des barrières commerciales et autres éléments qui gênent le commerce et l'investissement contribuera à l'amélioration des échanges entre les États-Unis et l'Afrique. Cependant, pour y arriver, il nous faut faire davantage et cela fait partie des discussions de cet important forum de l'AGOA.
Déclaration de Robert Lighthizer, représentant des États-Unis pour le commerce. Au total, 6 000 produits sont concernés par les réductions de taxes à l'importation, mais elles ne sont applicables que sous certaines conditions. Candide Léguédé, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise, explique.
C'est vrai que c'est tout un processus. Il faut se préparer pour aller à l'exportation. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire qu'on veut aller sur le marché américain. Il y a aussi le problème d'accès au marché. Nos États, ceux qui sont admis sous AGOA, doivent donc mettre en place des stratégies et des plans d'action pour pouvoir faciliter donc ce processus-là.
L'AGOA devait expirer en septembre 2015, mais elle a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2025.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.